On vous souhaite un bon matin et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Fin de mois, presque déjà, le 29 janvier 2018. Mon nom Claude Blas, bien assis à mon poste avec nos deux collaborateurs habituels, soit, comme la tradition le veut, les dames de bord.
Hein? Oui.
Alors, bon matin, Franceline.
Oui, bon matin à vous aussi.
Alors, ce matin, vous allez nous parler et oui, nous lire. En fait.
Oui, je vais vous lire un premier article tiré du journaliste par Pierre Gaudreau, qui est le directeur du RAPSIM. Le RAPSIM étant le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Et l'article est à propos des hôpitaux abandonnés, un énorme potentiel de reconversion à Montréal, donc. Ouais. Et le deuxième article, ben, j'irai en région, je vous lirai un article qui s'intitule « Une initiative surprenante à Rivière-du-Loup ». Et j'ai trouvé cet article dans la revue Le Bel Âge de janvier 2018.
Merci beaucoup, Franceline. On salue aussi M. Roger Roy.
Bonjour, Claude.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Voilà, oui. Alors de quoi
Oui, alors je vais vous parler de Québec. Mm-hmm. Il y aurait quelque chose dans l'eau dans cette ville.
Ah.
Oui, c'est d'après ce que dit un qui semble être un résident de Québec, David Desjardins.
D'accord.
Il y a quelque chose dans l'eau.
OK.
Mais aussi, changer le monde, un grille-pain à la fois.
Hein? Ah, quand même un drôle
niveau
de
titre. Au niveau des passerettes.
Ah oui?
On change le monde, un grille-pain à la fois.
D'accord. Et de mon côté, je vous parlerai, je vous dirai comment stimuler votre métabolisme d'hiver. Vous avez hâte, sûrement.
Ah, mon.
Et les aliments de dépanneur. Est-ce qu'on peut troquer les jujubes contre des fruits dans les dépanneurs? Est-ce qu'on le sait? Bon, hein? On verra ça tantôt. Oui.
C'est ça.
On vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors, on y va tout de suite avec Franceline comme premier sujet, les hôpitaux.
Oui, les hôpitaux abandonnés. Vous savez qu'à Montréal, avec les constructions des deux CHUM, mm-hmm. Les hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux sont déménagés donc dans ces nouveaux hôpitaux. Et que fait-on donc des bâtiments qui restent? Alors, Pierre Gaudreau, qui est directeur du RAPSIM, écrit ceci dans le journal Itinéraire. Le départ des communautés religieuses et la fermeture de vieux hôpitaux a rendu de vastes bâtiments et terrains vacants accessibles. L'Hôtel Dieu, le centre hospitalier Jacques Viger, l'Institut des sourds et muettes représentent des opportunités majeures de reconversion pour Montréal. Y verra-t-on de nouveaux logements sociaux ou d'autres condos? Ça, c'est sa question. Stratégiquement situés au cœur de Montréal, ces sites doivent conserver une vocation communautaire et répondre à différents besoins. Sur plusieurs de ces sites, des coalitions ont des idées, voire des projets solides en ce sens, incluant le développement de logements, de services de santé, de locaux pour des organismes, des artistes, des CPE et même des musées. Alors, au niveau du quartier latin, l'ancien centre hospitalier Jacques Viger occupe un vaste terrain, boulevard René Lévesque, à l'est de la rue Saint-Hubert. Pour ce site, fermé depuis 2012, différents organismes, dont la Maison du Père et le comité logement Ville-Marie, ont développé un projet diversifié. On y propose 160 logements en coopérative pour des familles, une résidence pour personnes aînées de 55 ans et plus, un volet muséal pour conserver la valeur culturelle du site, ainsi que des espaces communautaires et artistiques. En décembre, cette coalition a rappelé l'urgence d'agir, en demandant au gouvernement du Québec de céder la propriété à la ville pour permettre le développement du projet. Du côté de la rue Saint-Urbain, sur le site de l'Hôtel Dieu qui vient de fermer pour s'intégrer au nouveau CHUM, un projet varié est aussi en développement depuis 2013. Celui-ci vise à développer une communauté inclusive avec des logements sociaux pour différentes populations, dont itinérantes, le maintien de services de santé avec un réaménagement respectueux du patrimoine et de l'environnement. Sur la rue Saint-Denis, l'Institut des sourds muettes, un bâtiment majeur, donc situé dans le quadrilatère au coin des rues Saint-Denis et Cherrier. Depuis la fermeture de l'agence de santé en 2015, le bâtiment est largement vacant. Il le sera davantage avec le déménagement de l'Institut Raymond Dewar en 2018. Une rencontre tenue en octobre par les organismes et citoyens du quartier a permis d'identifier de nombreux besoins, notamment en matière de logements sociaux, d'espaces culturels, de jardinage, de CPE et le maintien de services pour personnes sourdes qui pourraient guider la reconversion du site. Pour tous ces projets, le temps presse. Dans certains cas, le danger est la détérioration des bâtiments. Pour d'autres, c'est la vente au privé qui constitue la menace. Tous ces bâtiments sont la propriété du gouvernement du Québec. La réalisation de ces projets s'échelonnera sur de nombreuses années, mais la ville et le gouvernement doivent, dès 2018, exprimer leur appui à ceci, d'abord en garantissant le maintien d'une vocation sociale pour ces terrains et bâtiments. Dans tous les cas, les sommes nécessaires seront importantes. Le recyclage des vieux bâtiments comporte bien des dimensions, rénovation, décontamination et autres. Le gouvernement fédéral et celui du Québec doivent s'engager à faire ces investissements sociaux, culturels, écologiques et économiques pour consolider une ville qui appartient à tout le monde. Le contexte pourra être favorable à ces projets, avec Projet Montréal, au règne de la ville, et des stratégies fédérales en logement et itinérance prévoyant des fonds importants pour les 10 prochaines années. Au Québec, les élections dans 8 mois permettront d'exiger des engagements envers le logement social, l'environnement, la santé, les CPE et la culture, qui sont au cœur de tous ces projets. Alors, quelques exemples de reconversion. La conversion de bâtiments représente un potentiel depuis des années avec des expériences et résultats variés. Par exemple, l'Institut des sourds et muets, situé sur le boulevard Saint-Laurent, au sud du parc Jarry, a été transformé en condo de luxe. Parc Extension et Villeray, qui jouxte ce site, auraient pourtant bien d'autres besoins à combler. Dans Rosemont, l'hôpital Bellechasse a quant à lui été recyclé en logements sociaux. Pour finir, un bel exemple est celui de l'immense couvent des Sœurs de la Providence, situé au coin des rues Follum et Sainte-Catherine, qui a été transformé en chambre pour personnes atteintes d'Alzheimer, en logements sociaux pour aînés et sans-abri, ainsi qu'en locaux communautaires. Le RAPSIM y a son bureau depuis 3 ans. Et on pense par exemple aussi à l'hôpital Notre-Dame, qui a changé sa mission, qui ne fait plus partie du CHUM, mais qui est donc un hôpital qui dépend des CUSS. Et on y trouve donc à Notre-Dame actuellement des services de pédiatrie, alors qu'il n'y en avait pas avant, chirurgie, psychiatrie et d'autres services. Et à l'hôpital Royal Victoria, j'ai vu que ça avait servi de clinique pour les réfugiés syriens. Je pense qu'effectivement, ces bâtiments ont intérêt à être utilisés, sinon la dégradation, et c'est quand même un patrimoine très important pour la ville de Montréal.
Et voilà, vous l'avez dit.
Alors voilà, c'était Patrick Gaudreau qui nous soumettait cela dans la revue L'Itinéraire du 15 janvier 2018.
Article très intéressant. On va espérer qu'il trouve
absolument
que
les projets puissent
les bâtisses. Oui,
absolument puissent se réaliser.
Êtes-vous prêt à faire griller vos routiers? Il y a Roger qui va nous en parler. Apparemment, ça peut changer le monde. On verra dans quelques instants. Alors, Roger, informez-nous sur le grippin.
Oui, alors c'est Maxime Johnson qui l'a fait dans l'actualité du mois de février. Il intitule son texte, comme je viens de le dire, « Changer le monde, un grippin à la fois ». Devant un grille-pain en pièces détachées, Joël Lapointe cherche un coupable, un fil mal branché, un court-circuit ou un morceau endommagé. C'est le deuxième appareil du genre que le finissant en génie mécanique tente de réparer ce soir au Repair Café de l'École des technologies supérieures, ETS, de Montréal. « Je ne connais pas particulièrement les grille-pains, mais je suis un patenteux de nature, dit-il. Avec une dizaine d'autres réparateurs improvisés, ils tentent de te donner une seconde vie à des électroménagers, ordinateurs et autres lecteurs CD. Les cafés réparations, ces ateliers éphémères ou permanents, mieux connus sous le nom de Repair Café, voient le jour un peu partout dans le monde depuis 2009 en réponse à la culture du jetable, mais aussi pour combattre l'obsolescence programmée. Devant ce phénomène selon lequel les fabricants diminueraient volontairement la durée de vie de leurs appareils pour encourager l'achat d'un modèle neuf, il y a un esprit de révolte dans l'air et l'usage d'un tournevis s'apparente à de la désobéissance civile. Les déchets, souvent électroniques, s'accumulent à cause des grandes entreprises et il est temps de remédier à la situation en attendant que les autorités publiques règlent le problème à la source. Les cafés réparations combattent l'obsolescence un grille-pain à la fois. Je suis contre l'idée de jeter des objets simplement parce qu'on est paresseux, explique le propriétaire du grille-pain qui ne grille plus, Guillaume Quentin, un chef qui a délaissé la restauration pour fonder une entreprise vouée à contrer le gaspillage alimentaire. Son message est à l'image de celui de la soixantaine de participants présents à l'activité de l'ETS qui tient de tels ateliers quelques soirs par année. Réparer ses gadgets n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de principe, disent-ils. La lutte contre l'obsolescence commence depuis quelques années à intéresser aussi les États, particulièrement en Europe. 2 ans de prison et une amende de 450 000 $, voilà la peine pour obsolescence programmée en France. Mais, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2015, rien n'a changé. Les téléphones intelligents continuent de ralentir avec les années et les panneaux électroniques des électroménagers sont toujours aussi coûteux à réparer. Aucun cadre d'entreprise n'a d'ailleurs été épinglé pour ce délit à ce jour. Le fardeau de la preuve est énorme, explique Fabien Durif, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Même si l'obsolescence programmée existe, ce qu'il ne croit pas, elle est trop difficile à prouver pour qu'une telle loi soit efficace. Et c'est là le hic. Est-ce que l'obsolescence programmée existe vraiment? Il y a un débat là-dessus qui fait rage. L'obsolescence programmée est essentiellement une légende urbaine, écrivait l'été dernier la presse. Selon le chroniqueur économique Francis Vail, les gadgets qui font défaut sont la conséquence du désir des consommateurs de payer toujours moins cher pour leurs appareils et non le fruit d'un plan machiavélique orchestré dans les plus hauts échelons des entreprises techno. L'obsolescence programmée n'existe pas, acquiesce Fabien Dutille, comme je viens de le lire. Selon ce chercheur, les entreprises tentent bien d'inciter à la consommation, notamment en complexifiant inutilement la réparation et en lançant des produits ayant de nouvelles fonctionnalités, mais elles ne recherchent pas forcément la mort prématurée des objets qu'elles fabriquent. Le PDG de l'entreprise américaine iFixit, Kyle Vienz, qui publie sur Internet des plans pour réparer les gadgets les plus populaires, du iPhone à la tablette Surface Pro, n'est pas d'accord. La volonté des consommateurs qui souhaitent toujours payer le moins cher possible contribue au problème, mais le fait que certains fabricants ne permettent pas à l'utilisateur de changer les piles de leurs produits, par exemple, est de l'obsolescence programmée. Cela ne fait aucun doute, juge Kyle Vienz, et la société ne devrait pas le tolérer, ajoute-t-il. Tous les intervenants contactés par l'actualité s'entendent toutefois sur un point. L'obsolescence doit diminuer, qu'elle soit programmée ou non. Pour sa part, le gouvernement suédois ne s'attaque pas de front à l'obsolescence comme en France. Il a plutôt fait le pari en 2010 de rendre les réparations plus attrayantes pour les consommateurs en mettant en plan des mesures fiscales pour diminuer le prix de ces réparations pour les biens courants, comme les vélos et les vêtements, et les électroménagers. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si ça va fonctionner. Par ailleurs, le Parlement européen s'intéresse au problème, mais il ne parle pas d'obsolescence programmée en tant que telle. Il s'intéresse à la durée d'utilisation des produits et la facilité de réparation. Cependant, le Parlement européen n'a pas encore légiféré sur la question. On fait actuellement des études. La lutte contre l'obsolescence ne passe toutefois pas que par des lois. Les consommateurs doivent aussi mettre du leur, notamment en achetant des produits de meilleure qualité. Quelqu'un me disait, mais c'est difficile à trouver des produits de meilleure qualité aujourd'hui parce qu'ils sont tous fabriqués à peu près au même endroit. qui ont une plus grande durée de vie, et non en recherchant toujours l'appareil le moins cher dont les composants risquent de flancher rapidement et parfois d'être trop onéreux à remplacer, estime Fabien Durif. Ceux qui sont arrivés au Repair Café de l'ETS avec des gadgets de cet acabit, comme un ordinateur portable abordable dont la peinture faisait défaut et un rasoir électrique d'une quinzaine de dollars, sont d'ailleurs repartis bredouilles. Il faut miser sur des politiques publiques de sensibilisation et d'éducation à la réparation et aux achats intelligents. Il faut rendre le tout plus facile pour les consommateurs, dit Fabien Durif. Alors, c'est un texte intéressant. On commence à s'y intéresser. On commence par le grille-pain, mais on finit par une autre question très importante. L'obsolescence est-elle programmée?
Et souvent, les gens changent pour l'esthétique. Alors, ils jettent leur ancien produit, alors qu'il fonctionne encore très bien.
C'est ça. C'est parce qu'il y en a une étude allemande qui le dit, d'ailleurs, que c'est difficile de comptabiliser.
Oui.
Parce que ça arrive très souvent que des gens vont tout simplement changer de modèle.
Oui, Tout simplement pour l'esthétique. Mmh. Et c'est plus facile de jeter des choses que...
Oui.
On s'entend. OK, on s'en va à la pause musicale, hein, c'est ça? Ouais, ben oui, la pause musicale. Et on revient tout de suite après. Je vous parle d'aliments de dépanneur.
C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer le monde. Que tu changes de maison, il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. La 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 la.
Monsieur Joe Dassin, 1972, ça ne va pas changer le monde.
De beaux souvenirs quand même. Les aliments de dépanneur, troquer les jujubes contre les fruits. Pensez-vous que les dépanneurs sont capables de faire ça?
Oh, c'est tout un pari, ça.
Ouais. C'est un article que j'ai retrouvé sur le blog de la presse de Émilie Bilodeau. Elle dit « Trouver des aliments santé lorsqu'on s'arrête au dépanneur, ce n'est pas une mince affaire. Même si ces commerces offrent peu à peu des produits plus sains, les consommateurs devront changer leur habitude. » Pas si évident dans un milieu qu'on associe presque toujours aux croustilles et aux friandises. Lorsqu'on pense aux aliments vendus dans les dépanneurs, les chips et les tablettes de chocolat viennent spontanément en tête. Certains endroits, comme les 600 couche-tard de la province, proposent également de la pizza, des sous-marins, des hamburgers, des hot-dogs. Ces options de repas, aux qualités nutritives vraiment discutables, fonctionnent bien. Même très bien, selon Karine Grandmont, gestionnaire marketing chez Couche-Tard. Elle dit qu'on ne sait pas si c'est le fait qu'on est un dépanneur, mais le virage santé est plus lent dans notre milieu. Notre offre de produits est élaborée selon la demande de nos clients et, pour le moment, on ne sent pas vraiment qu'il y a un intérêt pour ce genre d'aliments. Les Couche-Tard ne vendent pas seulement de la malbouffe. Pour qui veut bien manger? Il y a des œufs cuits durs, des noix, des smoothies et du fromage. Plus récemment, les magasins ont ajouté du houmous, des yogourts granola et des crudités à leur offre alimentaire. Le pain blanc de quelques sandwichs a aussi été changé pour du pain multigrain. Madame Grandmont admet que l'offre d'aliments sains est encore mince et qu'il y aurait moyen de faire mieux, si les consommateurs en manifestent le désir. Dans la région de Québec, une dizaine d'organismes ont mobilisé 4 dépanneurs dans un projet pilote voulant promouvoir des aliments santé. Les nutritionnistes du projet Aliments Sains, ainsi, ont réalisé que les commerces offraient déjà des options saines, mais qu'elles étaient peu mises en valeur. En offrant de la visibilité à ces aliments, ils ont constaté que beaucoup de clients continuaient à les bouder. Même si on avait identifié les choix santé, les gens qui venaient au dépanneur pour payer leur essence et acheter un sac de chips voyaient rarement nos affiches promotionnelles. Changer des comportements de consommateurs, ça prend du temps. Pascal Chaumette, nutritionniste à la direction de santé publique, qui citait. Dans le cadre du projet, Mme Chaumette et ses collègues ont réalisé que les clients qui disaient vouloir bien manger avaient de la difficulté à passer de la parole aux actes. Nous avons sondé les élèves d'une école secondaire pour savoir quel aliment ils voulaient retrouver au dépanneur du coin. Ils avaient plein de bonnes idées, comme des sushis, des fruits, des légumes, des sandwichs. Quand on a changé l'offre alimentaire, les jeunes ont quand même continué à acheter du chocolat, des croustilles et aussi des bonbons. Notons que les résidents du voisinage ont aimé cette nouvelle offre alimentaire et le dépanneur a décidé de conserver les collations et repas santé. Le chocolat et les bonbons sont des produits très populaires dans bon nombre de dépanneurs. C'est une question de rentabilité. Jacques Nantel, expert du commerce au détail à HEC Montréal, rappelle que plusieurs petits dépanneurs indépendants peinent à être rentables. En troquant les jujubes contre des fruits, les risques pour ces propriétaires de magasins sont très, très grands. Les loyers des dépanneurs de grandes chaînes sont très élevés, ajoute-t-il. Pour compenser, les commerces misent sur des aliments qui offrent une grande marge de profit, comme les arachides et les boissons gazeuses. Un dépanneur se trouve souvent dans un endroit qui coûte cher, comme une bretelle d'autoroute ou un artère commerciale. Les administrateurs veulent rentabiliser leurs pieds carrés, explique M. Nantel. Mais en rentrant des aliments périssables comme des fruits et des légumes, la marge nette se voit considérablement réduite. IGA Express fait figure d'ovni dans ce paysage de camelotes alimentaires. Les plateaux de thon, du pita et cocombre, les duos de fraises et ananas ou encore les assiettes de fruits séchés, de noix et de raisins, ne sont pas cachés dans un recoin de l'une des 20 succursales affichées HL, propriété d'IGA Sobeys depuis 2011. Au contraire, la chaîne mise sur les produits frais et de santé. Luc Blais, vice-président national, dépanneur et poste d'essence chez Sobeys, est d'avis que l'industrie n'a d'autre choix que d'entamer ce virage santé, une tendance déjà remarquée aux États-Unis. Pour y arriver, il explique que les IGA Express peuvent compter sur le réseau de distribution des épiceries IGA et aussi sur un logiciel qui permet de mieux analyser les aliments les plus populaires, un outil inestimable lorsqu'on travaille avec des denrées périssables. Un des défis, c'est d'optimiser nos heures en magasin pour que le modèle tienne la route économiquement. Dans un dépanneur traditionnel, on retrouve souvent un caissier qui place aussi la marchandise. Si vous rentrez chez IGA Express, vous allez trouver au moins 6 personnes pour la caisse, pour placer la marchandise et pour cuisiner les aliments. Ça coûte plus cher à exploiter, dit Monsieur Blais, mais ça vaut amplement la peine pour la clientèle grandissante. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le blog de la presse qui est écrit par Émilie Bilodeau. On vous revient dans quelques instants. Alors, quelques petites brèves pour vous, auditeurs. On dit qu'un médicament contre l'acné freinerait le début de la sclérose en plaques. Imaginez. Alors, une expérience conduite par l'Université de Calgary au Canada a révélé que la minocline, un molécule antiathnétique, peut ralentir la sclérose en plaques chez des patients qui en ont récemment éprouvé les premiers symptômes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de médicament qui puisse être administré par voie orale au premier stade de cette maladie. L'aminoglycine est déjà homologuée contre l'acné au Canada et dans l'Union européenne. Elle peut être prescrite pour des usages non indiqués sur l'étiquette. Alors, Franceline, vous aviez besoin de prendre place.
Oui, j'ai aussi une brève qui allait tout à fait avec l'article que vous aviez lu tout à l'heure.
D'accord.
Donc, c'est à propos des pruneaux, les pruneaux de Californie qui sont savoureux et hautement nutritifs et qu'on pourrait trouver justement dans les dépanneurs et les marchés d'alimentation. Mm-hmm. En effet, une nouvelle étude aurait démontré que la consommation d'une seule portion de 5 pruneaux par jour pourrait aider à ralentir et à prévenir la perte osseuse chez les femmes post-ménopausées. Ceci fait des pruneaux de Californie un outil précieux dans le maintien d'un mode de vie sain. Alors, adoptez de saines habitudes alimentaires pour la nouvelle année avec l'aide des pruneaux de Californie. Voici quelques-uns de leurs bienfaits pour la santé qui pourraient vous étonner. Effectivement, manger des pruneaux, ça agit sur la santé des os, sur la digestion. Ça contient de la vitamine B12, du potassium, du magnésium. Les pruneaux ont un faible indice glycémique. Et les fibres et autres composés des pruneaux peuvent aider à maintenir un bon taux de cholestérol. Alors voilà, prenez des pruneaux, 5 pruneaux par jour pour améliorer votre santé.
Ah, c'est bien.
Bon, une nouvelle incroyable maintenant, c'est Amazon Key. Terminer l'époque où il fallait rester chez soi pour accueillir le livreur venu déposer un paquet, Amazon Key donne désormais accès aux maisons des abonnés du service, même en leur absence. Ah. Aux États-Unis, pour 250 $, Amazon installe chez ceux qui le souhaitent une serrure intelligente pour déverrouiller une porte sans clé et une caméra de sécurité intérieure. Ses employés peuvent livrer des colis en étant surveillés en temps réel par le client sur un téléphone intelligent. On ouvre même votre porte maintenant quand vous n'êtes pas là.
Je ne sais pas où on s'en va.
Amazon Key n'ouvre qu'une porte de plus dans un monde où les frontières de la vie privée s'effritent sans cesse.
C'est fou, hein?
Merci, Roger. C'est fou quand même. Okay, on se prépare pour la deuxième partie de l'émission. On vous revient dans quelques minutes.
Son t-shirt unifolié en bougonnant après les colonies. Elle trinque au bon roi François Ier. Il tète son scotch from the old country. Elle tique tout ça, c'est sa faute à lui. Il ronfle tout seul dans son lit queen la nuit. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. Toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique. Forever indépendant, triste. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Sois pacifique, je reste authentique. Together indépendant. En chambre bleue, quand elle démaquille sa constitution frêle de vieille fille, c'est la première à revenir en arrière, une dernière fois pour que demain soit hier. Ils se sont aimés, well, souverainement, mais maintenant les enfants sont grands et la maison où ils étaient heureux est à vendre sur la terre de nos aïeux. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique. Forever indépendantiste. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Sois pacifique, je reste authentique. Together indépendant triste. Elle a aimé son bel Ottawa, des Rockies en passant par Moose Jaw. Je me souviens, ne croyez pas qu'elle pleure. D'un océan à l'autre, des larmes de bonheur. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique. Forever indépendantiste. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, sois pacifique, je reste authentique. Together indépendant triste. Faut qu'on se sépare, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Prends le Pacifique, je garde l'Atlantique.
Et on reste avec des succès rétro ce matin. Monsieur Robert Charlebois, l'indépendantiste.
Oui, alors vous êtes toujours à l'émission Les Voix de Service Magazine et on poursuit dans notre lecture d'articles avec Franceline.
Oui, alors là, je vous lis un article de la revue Le Bel Âge de janvier 2018. Et chaque mois, cette revue met en valeur une municipalité dite amie des aînés qui a un projet original ou innovant. Alors, ce mois de janvier, c'était Rivière-du-Loup, avec une initiative surprenante, vous allez voir. Pour répondre aux besoins de ces citoyens qu'ils avaient fait connaître lors d'une consultation sur la mise à jour de la politique de la famille et des aînés de Rivière-du-Loup, cette municipalité n'y est pas allée par quatre chemins. Quand ceux-ci ont réclamé de l'aide pour trouver rapidement les toilettes disponibles au public, le service loisirs, culture et communautaire a aussitôt réagi avec la collaboration des membres des comités aînés et familles de la ville de Rivière-du-Loup. C'est ainsi qu'est née la toute première carte au Québec des arrêts pipi. Eh oui, si l'idée pouvait sembler farfelue au départ, les citoyens de tous les âges, généralement actifs et adeptes de la randonnée en plein air, ont éprouvé un réel soulagement. C'est que nous sommes très marcheurs dans notre ville, s'exclame Suzanne Sirois, membre du comité MADA, donc Municipalité Amie des Aînés, de Rivière-du-Loup. La dévouée septuagénaire voit défiler chaque jour devant la fenêtre de sa maison pas moins d'une cinquantaine de promeneurs. C'est dire à quel point une telle carte est indispensable, tant pour nous que pour les jeunes parents avec poussettes ou accompagnés de petits marcheurs. Désormais, hiver comme été, les gens peuvent effectuer leurs emplettes ou flâner d'un pas plus léger. La carte leur signale les lieux municipaux et publics, ainsi qu'une vingtaine de commerces dans tous les quartiers et secteurs de la ville où ils peuvent s'arrêter en cas de besoin, explique Valérie Gauthier, gestionnaire au programme et équipement communautaire à la ville de Rivière-du-Loup. Chaque lieu est listé sur la carte, qui est disponible en ligne sur le site de la ville et en format imprimé, et identifié par un logo en vitrine. Ainsi, on est certain de ne pas entrer chez un commerçant exigeant qu'on achète quelque chose en échange. Cela démontre aussi l'ouverture de l'entreprise privée, applaudit la gestionnaire. Pour faire coup double, la ville a imprimé au verso un répertoire des 22 parcs municipaux sur son territoire. Il permet aux gens de se situer et de connaître les activités offertes dans les parcs où ils se trouvent. Afin de répondre à un autre besoin des aînés, celui d'être mieux conseillé quand vient le temps de casser maison, la ville a lancé en même temps le guide « Bien choisir son milieu de vie » en format imprimé ou sur le web. On trouve là donc des tableaux de renseignements utiles, une grille d'évaluation des besoins et des goûts, un répertoire des résidences certifiées, des astuces pour la signature du bail et le déménagement. Rien n'a été laissé au hasard. Cela nous a pris presque 2 ans pour réaliser cette collecte d'infos importantes, commente Suzanne Sirois, qui a participé très activement à la mise sur pied du projet. Même des grilles de calcul des revenus et des dépenses ont été ajoutées. Dans bien des cas, cette expérience étant très complexe, on est rapidement dépassé par les événements ou submergé par les émotions. Le guide tient donc compte de tout, même des petites dépenses imprévues. En prime, le tout est joliment illustré avec des photos des citoyens de la place. On l'a fait aussi pour le personnaliser davantage, ajoute Valérie Gauthier. Et ça marche, constate-t-elle. Les usagers se sentent davantage rassurés en sachant que le guide a été conçu exprès pour eux. Comme ailleurs au Québec, la population prend de l'âge dans cette municipalité du Bas-Saint-Laurent. Notre ville étant située au cœur du site territorial de la MRC Rivière-du-Loup, un grand nombre de personnes des petites villes environnantes, la plupart vieillissantes, migrent ici afin de profiter des services offerts, poursuit la gestionnaire. Sur une population d'environ 20 000 habitants, plus de la moitié est donc âgée de 50 ans et plus. Avec la mise en place d'infrastructures et de programmes de ce genre, on vise à ce que les gens puissent vieillir en santé et participer à la vie sociale le plus longtemps possible. Voilà, c'était donc un article écrit par Linda Presley en collaboration avec le Carrefour Action Municipale et Famille de Rivière-du-Loup. Et c'était dans la revue Le Bel Âge de janvier 2018.
Ben, parfait, merci beaucoup Franceline. On vous revient tout de suite après avec Roger. Alors, Roger, il y a quelque chose dans l'eau.
Oui,
à quel endroit?
À Québec. Il n'y a pas vraiment de lien avec ce que vient de nous lire Franceline.
Non.
Les stop pipi, mais encore que, je laisse un point de suspension et d'interrogation.
Ça reste liquide.
C'est David Desjardins qui signe ce texte. Dans l'actualité, il écrit ceci. Au lendemain de la plus récente élection municipale, Manon Massé célébrait la défaite de Québec 21 dans la capitale. Il s'est fait remettre à sa place, claironnait la co-porte-parole de Québec solidaire à propos de Jean-François Gosselin, chef de ce parti qui s'est rendu populaire en se prononçant en faveur d'un nouveau lien routier entre Québec et Lévis. Sauf qu'avec presque 27 % des voix, ce parti sans l'ombre d'une plateforme électorale valable et dont l'existence tenait à l'adoubement d'une poignée d'animateurs de radio, a obtenu un score que la formation de Manon Massé ne peut pas s'autoriser à imaginer dans la capitale, même dans ses plus torrides fantasmes électoraux. Comprenez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas de quoi fêter. On est ici dans le même délire qu'au moment de l'élection des Nordiques, de Régis Labeaume, lorsqu'il a promis de construire un nouvel amphithéâtre pour y ramener une équipe de la Ligue nationale de hockey. Un projet porté par les radios d'opinion qui en avait fait un redoutable outil de marketing et que presque tous les politiciens locaux ont appuyé sans réserve de peur de se les mettre à dos. Presque 500 millions de fonds publics plus tard, on attend toujours l'équipe et les opérations du centre Vidéotron sont déficitaires. Autre temps, hystérie herzienne analogue, les radios ont pris pour cible les ambitions du maire quant au transport en commun, insistant sur le fait qu'un troisième lien entre les deux rives est, lui, essentiel. Malgré le rappel constant d'études venant anéantir la viabilité du projet, le quart des électeurs de Québec ont voté pour cela. Ou enfin, pour ce que ce projet représente et qui dépasse largement la simple question du transport, le rejet de tout ce qui remet en cause leur mode de vie. Difficile après de ne pas avoir le sentiment de vivre dans une ville malade. Oui, vous avez bien lu, malade. Québec est une des cités les moins violentes d'Amérique du Nord, qui jouit du plein emploi où le tourisme vient de connaître une année record, et son unique grave problème est d'être contaminé quotidiennement par ses radios d'opinion. Si bien qu'à voir comment la ville vote, on est parfois tenté de se demander s'il n'y a pas quelque chose dans l'eau. Car oui, ma ville a attrapé un virus qui se transmet par le déni de vérité déguisé en opinion, par le mensonge travesti pour prendre l'apparence d'une information dite « alternative » et dont la marginalité réside en cela qu'elle n'a à subir aucune vérification. Ainsi, pendant qu'on s'interroge sur l'importance qu'a pu avoir l'influence russe sur l'élection américaine, je me demande jusqu'à quel point les radios de ma ville sont en train de mettre à mal la démocratie. Leurs animateurs diront que je ne comprends pas la colère des gens ordinaires qu'ils incarnent. Mais je sens bien le malaise dans la civilisation, cette panique devant l'échec du bonheur à crédit et des injonctions à la transcendance dans la file au Costco. Endettée jusqu'aux yeux pour toucher à la grâce, la classe moyenne ne semble plus voir par-delà ses télés de 60 pouces, ses voitures neuves qui remplacent d'autres voitures neuves et ses voyages dans le sud pour noyer sa détresse dans l'enchantement de l'ivresse permanente. Le monde souffre, ici aussi, même dans l'abondance. Nous avons faim d'autre chose, de sens par exemple, de communier autrement qu'à un spectacle de Metallica. Mais les profiteurs de la radio savent que la colère est un alléchant succès donné à la quête sociale ou spirituelle du fast-food pour l'âme. À quoi bon se remettre en cause quand on peut trouver des boucs émissaires pour expliquer son malheur? Comme les environnementalistes qui font la guerre à l'automobile ou les artistes qui incarnent notre mauvaise conscience en soulignant dans leurs œuvres le versant obscur de nos habitudes. Les agitateurs des ondes en font des épouvantails et confortent leurs auditeurs dans leurs préjugés, célèbrent l'ignorance, se plaçant en faux devant tout ce qui ne confirme pas que nous menons la bonne vie. L'Évangile est simple, le consumérisme comme religion, le sport professionnel comme unique ciment social, la voiture comme symbole de réussite, Québec comme bastion de résistance devant l'inquisition gauchiste qui force la remise en question des dogmes occidentaux. J'ai longtemps hésité avant d'adopter le vocable « radio poubelle » pour désigner ce que font ces animateurs. Je ne m'en prive plus. D'autant qu'ils prospèrent dans leur dépotoir d'idées où l'insulte et l'attaque ad hominem font figure d'argument, encore et encore, jusqu'à ce que leur poison atteigne la nappe phréatique, quand je vous dis qu'il semble parfois y avoir quelque chose dans l'eau. C'est David Desjardins qui a son cri de cœur, c'est dans l'actualité du mois de février.
On a compris le lien, hein, quand même, avec l'eau. Oui. Très bien écrit comme article. On s'en va à la pause musicale et on vous revient après avec « Stimuler votre métabolisme d'hiver ».
Je sens que le nord qui dort en moi m'appelle à prendre le pas. Ce coin de pays où c'est beau d'être nulle part. Admirer la beauté du silence qui s'effrite sous mes pas. Les arbres qui bougent en cadence font valser mes tracas. Je retournerai encore me perdre en forêt libre comme l'air dans. Comme le vin, envoyer promener les heures, savourer le temps et tout laisser derrière. Les pieds dans le ruisseau, ma tête vogue, suit le flot. Mes chagrins récurrents, fait avec le courant. L'envie de rencontrer l'orignal et de porter ses bois.
Premier extrait de son album Chansons de laine, c'était Marjolaine Moras et la pièce Prendre le Nord.
Merci beaucoup. Il fait froid ce matin, hein? Vous trouvez?
Oui. Ouais,
on a retrouvé le froid de l'hiver. Et j'ai retrouvé un article justement sur ce sujet qui était dans la sélection du Reader's Digest dans la partie sur Internet, dans la partie Plaisir Santé. Et il se titre comme suit, Stimuler votre métabolisme d'hiver. On dit, avez-vous remarqué qu'il fait froid à l'extérieur, j'espère. Plus, donc, nous voulons rester à l'intérieur. Ce n'est pas seulement parce qu'il fait froid. C'est une réaction biologique, dit-on. Lorsqu'il fait froid à l'extérieur, notre corps s'adapte en emmagasinant des graisses pour nous garder au chaud. Et le cerveau passe en mode hibernation. L'Association canadienne des aliments de santé, le CHFA, a trois conseils à vous donner pour améliorer le métabolisme d'hiver et maintenir votre niveau d'énergie pendant tout l'hiver canadien. Voici quelques trucs. On dit « activez-vous à l'extérieur ou au gymnase ». Le froid n'est pas une excuse pour passer la journée au lit. Le meilleur moyen de rester en forme en hiver et d'assurer le bon fonctionnement de votre métabolisme pendant toute la saison est d'être actif. Si vous vous sentez amorphe, c'est parce qu'à basse température, le corps a parfois tendance à être légèrement insulino-résistant. Donc ça veut dire, j'ai la version ici, donc ça veut dire un peu une pré-diabète, dit-on. Si lutter contre cette situation en faisant régulièrement des exercices d'endurance ou de force qui vous aideront à stimuler la réponse insulinique, à consommer de l'énergie et à maintenir le métabolisme en activité. Deuxième conseil, restez hydraté. Il est facile de penser à s'hydrater pendant l'été, car nous buvons davantage d'eau pour nous rafraîchir. En hiver, cependant, vous n'êtes peut-être pas conscient que votre corps est déshydraté ou qu'il est important de boire suffisamment de liquide. Des études montrent que la déshydratation peut ralentir le métabolisme, ce qui vous amène à brûler moins de calories par jour comparativement au moment où vous êtes suffisamment hydraté. En règle générale, il faut boire 8 verres d'eau par jour, mais cela peut varier selon vos facteurs santé individuels. Pour vous assurer d'être bien hydraté, on va retourner à l'article de Franceline, vérifiez votre urine. Elle devrait être claire ou jaune pâle. Si elle est jaune foncé, eh bien, arrêtez-vous en Abitibi pour aller aux toilettes. Prendre des suppléments, c'est le troisième conseil. Lorsque le métabolisme ralentit, il devient plus facile de succomber au blues de l'hiver. Toutefois, des suppléments d'acide gras oméga-3 à la longue chaîne se sont révélés efficaces pour contrer les troubles affectifs saisonniers. Ajouté à de l'exercice régulier, ça peut aider à stimuler les enzymes du corps qui décomposent les graisses. La vitamine D aussi est un autre nutriment essentiel que bien des Canadiens ne consomment pas suffisamment en hiver, même s'ils le devraient. Une carence en vitamine D a été associée à l'obésité et même au syndrome métabolique. Puisque les rayons du soleil ne sont pas suffisamment forts au Canada pour que notre corps produise la vitamine D de façon naturelle, songez donc à prendre un supplément. Lorsque vous achetez des suppléments, recherchez toujours le numéro de produit naturel, le NPN, à 8 chiffres. Il certifie que Santé Canada a examiné et approuvé l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit. Et pour d'autres conseils, santé pour l'hiver, consultez le site chfa.ca sur Internet. On vous donne plusieurs trucs. Et je vous donne d'ailleurs quelques petits trucs. On dit de manger beaucoup de fruits, des légumes feuillus, vert foncé aussi. On dit, faites-vous un petit jus de légumes vert foncé pour consommer à tous les matins et apparemment ça redonne de l'énergie. Et pour accroître votre vivacité, mangez des protéines, entre autres des omelettes de blanc d'œuf, des poitrines de poulet. Et on dit aussi que le millepertuis, c'est une plante qui est très efficace pour intervenir sur l'humeur et ça élève le taux de sérotonine, en fait. Dans le cerveau. C'est là qu'on le retrouve, la sérotonine. Hein? Jean-Sébastien me dit oui. On vous revient dans quelques instants. Alors, on revient avec un autre article que Francine nous a trouvé.
Oui, et vous savez, je lis souvent des articles de Yannick Marcil, qui est un économiste indépendant. Ces articles-là, je les trouve dans l'itinéraire. Et dans l'itinéraire du 15 janvier 2018, Yannick Marcil explique un peu à quoi servent les économistes. Lorsque des gens apprennent que je suis économiste, dit-il, la plupart d'entre eux croient que mes semblables ne s'intéressent à peu près qu'au marché boursier et à la finance, et que l'essentiel de notre boulot consiste à faire des prédictions sur leur évolution future. Or, en plus de 20 ans de vie professionnelle, je ne me suis à peu près jamais intéressé à ces questions, comme la très vaste majorité de mes collègues. L'économie est une science sociale dans la grande famille des sciences humaines. La discipline devrait se pencher donc sur les relations sociales qu'entretiennent les humains entre eux. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. Et son article s'intitule « Un souci pour la souffrance ». La science économique s'est beaucoup transformée au cours des dernières décennies. Elle est devenue une discipline très théorique et a recours à des outils mathématiques sophistiqués. A priori, rien de mal là-dedans. De nombreuses sciences le font et n'en expliquent pas moins le fonctionnement de la nature. Le problème qui se pose en économie, cependant, c'est que cette omniprésence de la théorie mathématisée gomme complètement le caractère profondément humain des relations économiques. Bien sûr, les économistes ne sont ni anthropologues, ni sociologues, ni psychologues. Leur boulot consiste à comprendre l'évolution de la vie économique, c'est-à-dire tout ce qui se passe par une transaction monétaire, pour simplifier. Mais la théorisation à outrance de la discipline fait en sorte qu'elle ne s'inspire ni ne tient suffisamment compte des recherches des autres sciences humaines et sociales. Notre vie économique n'évolue pas en vase clos. Notre consommation et notre travail sont influencés par une foule de facteurs sociaux, culturels, politiques ou symboliques. Derrière chacune des statistiques économiques dont on fait état dans les médias se cache une réalité humaine parfois souffrante. Par exemple, entre les mois de septembre et d'octobre 2017, le taux de chômage est passé de 5,6% à 5,7% au Canada. Ce tout petit dixième de point de pourcentage d'augmentation, c'est tout de même 5 200 personnes qui n'ont plus de boulot. Une partie d'entre elles auront été mises à pied pour 1000 raisons différentes. D'autres auront décidé de quitter leur emploi dans l'espoir d'améliorer leur sort ou parce qu'elles n'étaient plus satisfaites ou étaient malheureuses dans leur travail. Un tout petit dixième de pourcentage qui représente un grand nombre d'histoires individuelles tragiques. Dans tous les cas, ce sont des milliers de personnes, de couples, de familles qui vivent des jours angoissants face à l'incertitude que présente leur avenir. Une incertitude qui vient avec son lot de souffrances. Le grand sociologue allemand Hartmut Rosa, dans son remarquable ouvrage intitulé « Aliénation et accélération », publié aux éditions La Découverte en 2012, affirme que c'est la souffrance humaine réelle qui devrait être le point de départ de l'interrogation en sciences sociales. S'intéresser à notre vie économique sans y intégrer des considérations de la condition humaine n'est rien d'autre qu'une aberration. La réflexion économique ne se limite pas à l'analyse de froids et impersonnels tableaux statistiques. Elle doit éclairer la réalité humaine tapie derrière ces données. Une statistique économique n'est jamais qu'un simple chiffre. Elle traduit une réalité humaine tout en masquant sa complexité. On ne peut pas analyser la situation économique sans penser à ma voisine. Elle qui est mère monoparentale, dès le 10 du mois, elle n'a aucune idée des moyens qu'elle devra trouver pour boucler sa fin de mois, pour se nourrir, elle et ses enfants, parce qu'elle est épuisée après avoir perdu son emploi mal payé. Cette souffrance n'est pas un dixième de point de pourcentage du taux de chômage. Cette souffrance est réelle, profonde et dévastatrice. Observer le monde devrait, doit être de s'en soucier. Voilà cet article de réflexion de Yannick Marcil à propos donc de la situation économique de pas mal de gens.
Merci beaucoup, Franceline. Je vous rappelle que cette émission est en rediffusion tous les jours de la semaine et on retrouve cette émission en direct aussi tous les jours de la semaine à 9h le matin. Et on remercie Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté de la vitre pour les commandes techniques. Merci à Roger ce matin, merci à Franceline et restez à l'écoute. Il y a Hélène Denis qui s'en vient avec le quotidien des quotidiens. Bonne semaine à vous tous.
Au revoir.